sur des ondes 88.3 Radio Campus.
On renonce à son petit confort, on abandonne toutes ses foutues possessions terrestres, on s'en va habiter une ruine dans le quartier des déchets toxiques. Et quand on rentre chez soi, c'est pour entendre ça.
Radio Campus 88.3.
Du bruit à 99%.
Bonjour à tous et bienvenue sur Écoute ta fac sur Radio Campus Orléans 88.3. On est aujourd'hui avec Rodrigue et Lucie pour parler d'actualité. On va commencer aujourd'hui par une nouveauté. On va faire des petits flash infos. Donc on va commencer par les infos internationales, puis nationales et ensuite l'environnement. Mais avant ça, une petite pause musicale.
Thank you.
Publicité.
Fusion estivale. Après 4 éditions, plus de 50 artistes et près de 10 000 sourires, le Fusion Estival revient les 26, 27 et 28 mai 2023 pour une dernière danse au Jardin de l'Évêché. Venez nombreuses et nombreux célébrer les musiques électroniques, la fête et la danse avec Charlie & Scotch, Domi, Éclair Fifi, Julien Lebrun, Malika, Niggles, Olympe 4000, Orpheus The Wizard et Stella and the Longos. Infos pratiques et billetterie sur les pages Facebook et Instagram de Fusion Estival.
The Last Dance.
Gagnez des passes 3 jours pour le Fusion dans Écoute ta fac de 12h à 13h sur Radio Campus.
Fusion Estival, The Last Dance.
Fusion Estival, les 26, 27 et 28 mai à Orléans.
La pub sur campus, de toute façon, c'est même pas de la pub.
88.3 FM.
Yeah.
Et c'était All These Kids que vous venez d'entendre à l'antenne de Radio Campus. Et tout de suite, avec Lucas, on se retrouve pour le Flash Info du jour.
Tout à fait, Rodrigue, c'est la nouveauté de cette semaine. On va vous concocter désormais des petits Flash Info sur l'actualité du jour, internationale, nationale. Et aujourd'hui, on va faire un petit focus sur l'environnement, mais ça dépendra des jours par rapport aux thématiques qu'on va aborder. Donc, on va commencer par une info internationale concernant l'Ukraine. Le président de la Cour suprême ukrainienne arrêté pour corruption dans la soirée, alors que l'Ukraine est actuellement candidate à l'Union européenne, le président de la Cour suprême ukrainienne, Vsevolod Kniazev, a été mis en détention pour une affaire de corruption portant sur 2,7 millions de dollars. Donc, le milliardaire Konstantin Dzhevago... affirme avoir extradé cet argent, qui est une grosse somme, vers la France, comme pot de vin à des juges de la Cour suprême, afin que ceux-ci tranchent en sa faveur dans un litige l'opposant à d'anciens actionnaires. Donc on parle d'une corruption contre les Russes, mais on voit aussi que l'Ukraine a sa crédibilité qui est mise à mal, notamment lors de cette candidature pour l'adhésion à l'Union européenne. Donc Ursula von der Leyen parle de problèmes de transparence et d'après l'ONG Transparency International, il y a une alerte sur le fait que l'Ukraine se place uniquement au 111e rang sur 180 pays par rapport à la transparence. Donc le pays aussi, par exemple, avec la loi martiale depuis l'année dernière, avec le début de la guerre, empêche en effet les journalistes de mener une enquête, notamment lorsqu'il s'agit de vérifier les déclarations d'impôts. Donc on observe que cette affaire de corruption n'est pas la première et qu'elle entache la crédibilité en termes de démocratie et de justice en Ukraine sous fond de guerre avec la Russie. Maintenant, la parole à Rodrigue pour nous parler d'une actualité qui se passe en Italie. Qu'est-ce qui se passe, Rodrigue ?
Eh oui, on va aller voir chez nos amis transalpins et notamment les étudiants qui campent devant leur faculté étudiée dans l'enseignement supérieur devient de plus en plus compliqué. Pour nombre d'étudiants issus des classes populaires et moyennes, on a déjà pu en parler en France, mais là, on vous propose d'aller voir ce qui se passe chez les étudiants transalpins qui campent, comme je le disais, devant leurs universités. Et toutes les universités italiennes sont touchées, même les plus prestigieuses, dans la capitale à Rome. L'une des principales revendications est notamment le prix des logements qui est beaucoup trop élevé pour un bon nombre d'étudiants venant des régions et dont les parents ne peuvent se permettre d'aider leurs enfants à payer les loyers des villes. Contraints à se loger plus à l'extérieur, les temps de trajet et les difficultés pour trouver des travails sont plus compliqués pour ces étudiants et met à mal leurs conditions d'études au sein des universités. Alors, les universités italiennes essayent de mettre en place des choses et notamment d'aménager des espaces qui peuvent être désaffectés afin d'accueillir des logements étudiants. Mais cela va bien trop lentement. Les étudiants demandent donc notamment une loi pour établir des tarifs plus équitables. Cette difficulté de logement étudiant et de travail étudiant a notamment été posée lors de la dernière enquête au campus qu'on a eue sur Orléans. Alors, quand est-ce que les universités et les ministères prendront la mesure de ce problème et décideront de miser sur leur jeunesse et sur leurs étudiants ?
En effet, c'est une actu très intéressante qui peut avoir des répercussions chez nous à Orléans. Donc merci pour cette info internationale. On passe tout de suite au national avec une nouvelle par rapport au permis de conduite numérique. Donc il y a quelques années, 2 ans je crois, le permis de conduire a changé de forme en étant plus petit et plus transportable dans nos poches et dans nos porte-monnaies. Mais désormais, il va devenir numérique. N'importe qui pourra l'avoir sur son téléphone et le montrer en cas de contrôle de police. Donc effectivement, le gouvernement essaye un permis de conduite dématérialisé. La version numérique du certificat sera bientôt dans l'application France Connect aux côtés des démarches administratives telles que l'assurance maladie ou bien les impôts. Il y a des premières expérimentations qui sont en marche en ce moment dans 3 départements. et en attendant une généralisation en janvier prochain de ce dispositif si ça fonctionne. Donc l'objectif est évidemment de simplifier les démarches administratives et d'éviter les usurpations d'identité. Et aussi, cette démarche vient d'une consultation européenne. Donc il y a plusieurs pays dans l'Union européenne qui réfléchissent à simplifier le permis de conduire pour simplifier la libre circulation et permettre aux citoyens européens d'avoir des permis de conduire semblables pour éviter les complications lors des contrôles aux frontières. Voilà, maintenant on va parler des retraites avec Rodrigue.
Et oui, le point aussi concernant la réforme des retraites. Lundi, nous avons eu une allocution sur le journal de TF1 du président Emmanuel Macron qui, pour calmer les Français, proposait des solutions, notamment concernant les classes moyennes. Depuis hier, nous avons la première ministre Elisabeth Borne qui reçoit les représentants syndicaux. Et en même temps, l'exécutif qui semble jouer ce double rôle via sa majorité parlementaire, puisque hier, les groupes constituant la majorité de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire Renaissance, Modem et Horizon, ont décidé de recourir à l'article 40 de la Constitution pour s'opposer à la proposition de loi visant à abroger le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, qui doit être débattu le 8 juin prochain. Alors concrètement, pourquoi ces trois groupes recourent-ils à cet article ? Tout simplement parce qu'il permet d'éviter le vote de toute proposition ou amendement formulé par des membres du Parlement ayant pour conséquence du coup la diminution, la création ou l'aggravation d'une charge pour la dépense publique. Il semble donc que le gouvernement et la majorité présidentielle jouent un double jeu en tentant à la fois l'apaisement mais en même temps soufflent sur les braises au Parlement.
Donc affaire à suivre aussi, sachant qu'au Parlement, notamment à l'Assemblée nationale, le 8 juin aura un nouveau vote concernant la réforme des retraites. Donc on attend peut-être des tensions et d'éventuels retours des manifestations dans les prochains jours. Donc ça, c'était pour l'actualité nationale. On va enlever encore plus sur une thématique qui est très intéressante, qui est notamment l'environnement. On va commencer à parler du Sénat. Parce qu'effectivement, le Sénat donne au gouvernement le pouvoir de suspendre les recommandations de l'ANSES, donc l'Agence de sécurité alimentaire. Depuis hier, le Sénat a voté cette loi pour répondre à la compétitivité mondiale agricole et permettre aux agriculteurs français de survivre, notamment face à la montée des prix, à l'inflation et à toutes les réglementations très sévères pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc cette mesure a été adoptée à la majorité par le groupe Renaissance et les Républicains et d'autres groupes de droite du Sénat. Une démarche pas forcément acceptée du côté du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui est assez critique et qui parle d'un retour à l'arrière, sachant que ces pesticides, on sait, sont très néfastes et nocifs pour l'environnement. Donc un débat qui risque d'être houleux dans ces prochains jours, avec notamment des revendications des oppositions comme le groupe communiste, NUPES, et puis évidemment les écologistes en tête de gondole de ces revendications concernant le retour des pesticides dans nos campagnes prochainement.
Et oui, une décision du Sénat qui semble compliquée à comprendre, étant donné un rapport qui vient d'être publié hier par des chercheurs du CNRS et qui concerne notamment la chute de la population d'oiseaux à cause de cette agriculture qui est intensive. Les chercheurs Vincent Devidon et Stanislas Régal ont réalisé une étude qui est sortie hier, du coup, dans les médias. On en parlait hier dans l'émission « À bâton rompu » avec Hassan Kerim. On constate ces dernières années une chute de 25% de la population des oiseaux. Après 37 ans de données collectées sur 28 pays analysés, les scientifiques s'accordent à trouver que la population d'oiseaux diminue de 20 millions de spécimens chaque année. On lit les causes de ces disparitions au réchauffement climatique, bien sûr, à l'urbanisation, mais notamment à l'agriculture intensive, l'utilisation d'engrais, l'agrandissement des parcelles ou la simplification des sols et des céréales poussent de plus en plus d'oiseaux à disparaître. On retrouve moins de ressources pour ces oiseaux. Ils ont donc des difficultés à se nourrir. Et la France, l'Allemagne, les géants agricoles européens enregistrent aujourd'hui la plus grande consommation d'engrais. En France, on observe même une augmentation des méga-fermes de plus de 100 hectares. C'est la mesure de grandeur pour ces méga-fermes. Voilà, c'est donc une affaire à suivre et des problématiques écologiques qui semblent compliquées à résoudre.
Tout à fait, bah c'était le Flash Info du 17 mai.
Et juste après, un instant musical, on se retrouve pour parler d'événements au Bouillon et notamment de la Pride qui s'est déroulée samedi 13 mai à Orléans. Je vous laisse donc avec The Best Is Yet To Come de World Wide Web.
Thank you.
De retour sur Radio Campus Orléans 88.3 pour Écoute ta fac. Maintenant, on va parler d'une actualité de samedi dernier. C'était la Pride. Radio Campus Orléans était présent. Mais avant, par rapport à cet événement, comme aujourd'hui c'est une date assez particulière, c'est la journée de lutte contre la transphobie et l'homophobie en France. Et le Bouillon, donc le centre culturel de l'Université d'Orléans, propose ce soir un documentaire qui s'appelle « Trois nuits par semaine » qui suit l'histoire d'une drag queen dans ses déboires, sa vie, son quotidien et aussi sa perception et sa reconnaissance sociale dans la société. Et ensuite, ça sera suivi d'un débat avec cette une drag queen orléanaise qui s'appelle Mimistique. Donc l'entrée est libre et vous êtes les bienvenus à partir de 20h30 pour vous rendre à cet événement au Bouillon. Donc désormais, on va commencer le petit reportage sur la Pride, donc la marche des fiertés, qui a eu lieu à Orléans samedi dès 14h30 au Campo Santo. Donc d'abord, petite contextualisation, c'était un record depuis 10 ans, avec 1700 personnes lors de cette Pride, alors qu'il y a 10 ans, lors de la première Pride, il y a eu uniquement 200 personnes. Hier, vous avez peut-être entendu un petit audio lors de l'émission « À bâton rompu » d'Hassan Kerim, qui donnait la parole à Mélanie Rocher, nouvelle présidente du GAGLL 45, qui justement revenait sur cet événement. Et pour résumer brièvement, donc l'objectif, c'était... dans un contexte du 10e anniversaire du mariage pour tous, de faire prévaloir les droits humains à travers cette liberté de défendre le fait d'être lesbien, gay, trans, non-binaire, etc. Donc dans cette journée-là, c'est très important. Et on va vous laisser sur quelques témoignages de Alain, Justine et aussi Nathalie, qui sont assez intéressants par rapport à ce sujet-là.
Je soutiens la cause parce que les gens soient beaucoup plus tolérants, qu'on puisse vivre avec nos envies, l'amour qu'on a, qu'on soit un homme, une femme, que les gens apprennent à être beaucoup plus tolérants entre eux et qu'on est capable de vivre tous ensemble. Et heureusement qu'il y a des manifestations comme ça, et c'est bien de voir la relève des jeunes. On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui, et ça prouve qu'ils assument et qu'ils ne se cachent plus. Et ça, c'est bien.
Et maintenant, on va écouter le propos de Nathalie, qui est pansexuelle et lesbienne. C'est un propos très poignant et percutant.
Donc moi, en tant que lesbienne pansexuelle même, j'ai subi l'homophobie. Ma fille a subi l'homophobie parce que sa mère aimait une femme à cette époque-là. Donc je trouve important qu'on se rassemble pour lutter contre l'homophobie, la mise au placard, les problèmes de santé aussi, l'accès à tous les jobs. En fait, voilà, j'ai juste envie de dire... vivons ensemble, ce qui se passe à l'enceinte de notre chambre ne regarde que nous, et surtout je voudrais que ces images soient diffusées dans les campagnes. Tellement de choses à faire qu'il ne faut pas lâcher le combat. En fait, on est encore au Moyen-Âge en 2023, il ne faut pas oublier.
Alors Rodrigue, tu avais une petite question.
Oui, qu'est-ce que c'est pansexuel pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément ce que c'est?
Donc pansexuel, c'est le fait d'aimer aussi bien un homme ou une femme, qu'on soit bisexuel, gay ou bien lesbien, sans distinction entre le genre. Donc voilà, pas forcément se mettre dans les cases et aimer tout le monde. Voilà, donc maintenant on va parler des associations qui étaient présentes lors de la Pride. Et il y avait notamment Amnesty International. Donc on va écouter leur petit témoignage.
Amnesty, c'est une organisation internationale, une ONG, donc qui s'est donnée pour mission de défendre les droits humains et qui est née en 61, si je me souviens bien, c'est ça. Donc, en réaction finalement à un événement qui s'était produit au Portugal, où des étudiants portugais avaient été, sous la dictature de Salazar, emprisonnés pour avoir parlé de liberté. Donc voilà, ça a été créé comme ça et ça s'est répandu dans le monde entier. Donc actuellement, on est à plusieurs millions de sympathisants à travers le monde. Et donc voilà, la mission, c'est ça. Donc c'est une organisation apolitique, ne dépendant d'aucun gouvernement, qui ne reçoit aucune subvention et qui vit donc uniquement des dons et des cotisations. Voilà. Et on défend tous les droits humains, tous ceux qu'on signait dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous savez, j'ai utilisé droits de l'homme, on préférerait que ce soit droits humains. Par exemple, au Québec, on dira plutôt Déclaration universelle des droits humains. Bon, en français, on a gardé de l'homme. Bon, ça, c'est un autre débat. Et donc, voilà, là, il y a tout là-dedans, dans ce petit livret, une partie. Donc, en fait, c'est tous les droits humains en général. Et là, clairement, la communauté LGBT est discriminée à travers le monde. Donc, c'est le devoir d'Amnesty de les défendre également.
Donc maintenant, on a eu aussi au micro de Radio Campus Orléans samedi, Sarah Durocher, d'origine orléanaise, qui est désormais présidente du Planning Familial France. Elle revient brièvement sur sa présence à la Pride samedi.
C'est plutôt dire qu'on est là pour défendre les droits de l'homme, quels que soient les droits, et les gens qui sont... On est contre la peine de mort et contre la torture.
Pour moi, ça fait écho aujourd'hui à montrer qu'on est bien présent, mais aussi en solidarité aux Polonaises, aux Hongrois et Hongroises, aux Italiennes et Italiens aussi. Et puis dans tous les pays, bien évidemment, où on risque de mourir si on dit qu'on est homosexuel. Donc voilà, c'est plutôt... moi, je trouve qu'on est dans un contexte un peu triste. Et du coup, je trouve que c'est important de se montrer mobilisé collectivement et sans parler de l'extrême droite en France aujourd'hui qui se montre et avec un discours assez banalisé, malheureusement. Le message que nous on dit aux personnes LGBT, c'est qu'en termes de droits sexuels et reproductifs, le planning accueille de manière inconditionnelle et que souvent on peut vivre de la LGBT-phobie par des médecins, par des accueillants ou des accueillantes, et nous on peut assurer un lieu safe.
Et justement, on peut revenir sur Amnesty International parce que Sarah Durocher, dans son propos, parlait de cette haine et de la LGBT-tophobie, et notamment des personnes qui subissent la peine de mort pour ça. Et l'ONG Amnesty International est très présente sur ces questions-là. On écoute une de ses représentantes.
C'est plutôt dire qu'on est là pour défendre les droits de l'homme, quels que soient les droits, et les gens qui sont... On est contre la peine de mort et contre la torture. Et voilà, les pays, c'est l'Arabie, c'est le Yémen, ceux qui tuent, la Somalie, le Nigeria... la Mauritanie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan. Il ne faut pas oublier qu'en France aussi, les droits de l'homme, les droits des homosexuels ou les droits des minorités, c'est pas non plus... on n'est pas les rois. Hein. Je crois qu'on n'est pas... je ne sais pas dans quel rang on est, mais on n'est pas dans les premiers.
Donc maintenant, on va écouter le président du planning familial, Vincent, donc le planning familial d'Orléans, qui revient sur sa présence à la Pride samedi. Pourquoi ils étaient là ?
Là, aujourd'hui, c'est un truc tranquillou. Hein. Il y a des petits badges à faire avec l'ensemble des drapeaux, des visuels en lien avec les luttes LGBTQIA+. De l'information, de la rencontre, de la discussion autour de toutes les questions qui peuvent être soulevées aujourd'hui et qui doivent être soulevées tous les jours. Moi c'est Vincent, je bosse au planning d'Orléans, planning familial du Loiret. Nous être à la Pride, ça nous paraît c'est une évidence. On est une association féministe. Donc historiquement le féminisme, les luttes LGBTQIA+ ont toujours marché main dans la main. C'était une évidence pour nous d'être ici. Voilà, il y a plein de monde, il fait beau, donc autant en profiter. On est alliés, on est alliés de ces luttes-là, on y participe. On met en place par exemple des temps d'apéro qu'on appelle apéro queer fréquemment, donc dans des bars d'Orléans ouverts à toutes et à tous, toutes les personnes qui sont intéressées par les questions LGBTQIA+. Voilà, l'idée c'est d'avoir aussi un accueil inclusif, accueillir tout le monde, quel que soit son genre, son orientation sexuelle, ses préférences, etc.
Voilà, donc on a écouté Vincent, président du planning familial, qui dit pourquoi justement cette association était présente. Mais maintenant, on va parler on a le témoignage de personnes d'une soixantaine d'années qui nous disent pourquoi, selon eux, c'est important d'avoir pas uniquement des personnes de moins de 20 ans, comme d'après les chiffres à la Pride, généralement il y a 80% de personnes de moins de 20 ans. Mais voilà, là vous allez avoir un témoignage d'une personne d'un certain âge qui parle de de la présence des personnes plus âgées à la Pride. Ah. Petit souci technique. On va juste terminer avec un dernier témoignage, qui est le témoignage d'Alain, qui a 69 ans, et qui nous explique que même malgré le fait qu'il soit hétéro, pourquoi il vient depuis 10 ans quotidiennement à la Pride à Orléans pour manifester pour les droits humains.
Les personnes âgées non hétéro, si j'ose dire, sont plus enfermées dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes depuis des dizaines d'années. Alors que les jeunes sont plus malléables, plus ouverts, et peut-être aussi, justement, ont-ils envie de changer le monde. Contrairement aux vieux, comme moi, qui, eux, font avec.
C'était le témoignage d'Alain, 69 ans, par rapport à la Pride. Donc le petit reportage de samedi dernier à la Pride proposé par Radio Campus Orléans est terminé. On va juste réannoncer l'événement du Bouillon qui a lieu ce soir à 20h30. Donc c'est la projection du film « Trois nuits par semaine » et ensuite qui sera accompagné d'une discussion, d'une table ronde avec la drag queen Mimi Mystique. Maintenant, on vous laisse sur une petite pause musicale. Donc, c'est l'album Open Up. Donc, c'est un feat avec Sampha et Tirza. Et le nom de l'artiste, c'est Quez. Bonne écoute.
We could keep it simple, towering over us like a rough coat. It doesn't have to be complicated, educated. I know you like to travel. We already got our passports in the bag. We don't have to go anywhere. Let our love unravel. Could you be the best I've ever had? Seems like you've always been there. Treat you like you won't forget. Spend some time alone, no regret.
Et c'est le titre Open Up de Quaze qui se finit lentement sur notre antenne de Radio Campus Orléans. Et avant de passer à la suite de l'émission, petite annonce, enfin surtout transition, ce soir se déroule au Jardin de l'Évêché à Orléans, en partenariat avec le CDNO, une pièce qui s'appelle Ombre. Eurydice de Marie Fortuit, enfin mise en scène par Marie Fortuit, qui sera sur les planches en fait, que vous pouvez aller voir. Ce sera à 19h30. Une première représentation a eu lieu hier soir à 20h30. Elle a fait salle comble, si je m'en souviens bien. Et pourquoi vous parler de Marie Fortuit aujourd'hui et de cette pièce? Tout simplement parce que vous pouvez la voir ce soir, mais aussi parce que Marie Fortuit a été impliquée dans des missions d'éducation artistique avec des élèves de l'Université d'Orléans et de l'option théâtre du lycée Voltaire pour cette saison. Ce qui est donc intéressant, c'est de pouvoir parler de ces artistes qui prennent le temps aussi pour les étudiants de l'université, et on a pu faire une petite interview avec elle justement lors de cette participation à un atelier avec les étudiants. On vous laisse écouter.
Metteuse en scène et comédienne, et je dirige la compagnie qui s'appelle Les Louves à minuit.
Alors du coup, là on était à une représentation de l'UE Théâtre. Pourquoi tu as participé au projet? Comment t'en as entendu parler? Et qu'est-ce qui t'a motivé?
Alors, je suis artiste associée au Centre dramatique d'Orléans, donc le théâtre d'Orléans qui est dédié beaucoup aux écritures contemporaines. Et en fait, c'est la deuxième fois que je participe à ce projet, donc en tant que metteuse en scène de ce spectacle. C'est Séverine Chavrier donc, qui dirige le théâtre, qui choisit un peu des artistes en qui elle a confiance pour travailler avec des étudiants. Et donc, pour la deuxième année, je mène cet atelier.
Est-ce que tu avais des attentes particulières, des envies dans ce projet que tu voulais apporter aux étudiants?
Alors, mon objectif principal, c'est vraiment de faire vivre aux étudiants l'expérience du sensible, l'expérience d'une représentation aussi, parce que c'est un défi en quatre séances de 3 heures et un week-end de répétition, de faire un spectacle et de vraiment leur faire sentir en eux-mêmes l'aventure d'une communion en fait par rapport à ce que peut nous donner le théâtre, et puis aussi une façon de se connaître mieux soi-même. C'est-à-dire, moi je travaille beaucoup avec l'écriture, donc je les ai d'abord fait écrire des textes qu'on a ensuite mis en scène au plateau. Et il y avait une phrase qui était un peu le point de déclenchement, le jour où j'ai perdu quelque chose. Et ça m'intéressait beaucoup de travailler sur la question de la perte avec les étudiants, avec la jeunesse aussi, et de sentir comment en fait déjà à 20 ans, à 19 ans, à 21 ans, on peut être plein de sensations, comment dirais-je, d'une certaine façon profondes, et en même temps aussi qui peuvent être bien sûr légères ou drôles, mais en fait on a vécu beaucoup de choses intérieurement en fait déjà à 20 ans, et c'est un âge où je pense qu'il y a besoin de métaboliser finalement ces pertes. Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées, et le théâtre permet cette expérience de aussi d'avoir conscience qu'il y a des choses plus grandes que soi par lesquelles on est traversé. Et donc l'expérience de la scène, l'expérience du public et l'expérience d'une représentation, en fait, rien ne remplace ça. Parce qu'on peut faire un atelier de théâtre et il n'y a pas de représentation, mais en fait, on va pas être dans, comment dirais-je, dans cette adrénaline, dans ce moment où en fait il faut se dépasser pour soi, mais aussi pour l'équipe.
Et durant cette aventure, quels outils tu as essayé de mettre en place justement pour faire partager à ces étudiants, leur faire ressentir ces émotions? Quelles sont les techniques vers lesquelles tu t'es plus rapprochée?
Bah, disons qu'il y a vraiment cette chose sur laquelle j'aime beaucoup travailler, c'est à la fois l'écriture, donc que ça parte d'eux en fait, que voilà, moi j'insuffle voilà, ce thème d'une façon de la perte, des retrouvailles, de le jour où j'ai perdu quelque chose, donc de vraiment de partir d'eux. Et ensuite, donc l'outil de l'écriture, et ensuite des outils qui sont... Je leur parle vraiment comme si c'était des acteurs, en fait. Pour moi, je me dis, voilà, je m'adresse à eux comme quand je m'adresse à mes acteurs, quand je travaille sur mes spectacles. Je les considère vraiment comme des acteurs. Je ne fais pas trop de différence entre professionnels et amateurs. Et donc voilà, j'essaye de mettre à profit d'une certaine façon ma boîte à outils, mon savoir-faire. Et donc ça passe par des choses toutes simples, de toujours leur rappeler que le théâtre c'est une situation, quelle est la situation dans laquelle ils sont. Et c'est par là en fait qu'après on travaille la technique, parler plus fort, regarder l'autre, ne pas être de dos. Mais en fait c'est d'abord pour moi l'expérience du sensible, de l'intériorité. Parce que si je leur dis tout de suite, bah vas-y, parle plus fort, en fait, ils comprennent pas pourquoi. Et du coup, pour moi, on perd un peu le sens. Donc, voilà un peu comment j'ai essayé de travailler avec eux.
Et qu'est-ce que cette expérience, elle t'a apprise? Est-ce qu'il y a des points que t'aimerais améliorer, travailler pour une prochaine fois, d'autres projets avec ces jeunes? Est-ce que tu comptes aussi peut-être refaire un nouveau théâtre?
Bah, disons que ce que ça m'a appris, c'est aussi prendre un peu le pouls de la jeunesse, j'allais dire, de cette génération que je découvre, que je trouvais assez désespérée quand même sur pas mal de points, pas mal d'anxiété par rapport à la société, par rapport à leur avenir, par rapport aussi à la pression dans laquelle ils sont. J'ai trouvé aussi une grande... Il y a une solitude, je trouve, qui est plus grande qu'avant. Peut-être moins de solidarité ou de choses qu'on fait vraiment ensemble. J'ai trouvé que c'était pas facile aussi de la concentration. J'attribue vraiment ça aux écrans, vraiment. Je pense parce que voilà, c'est peut-être une génération qui a grandi vraiment beaucoup plus que la mienne avec les écrans dès le plus jeune âge. Et ça m'a un peu attristée au départ, je dois dire, de voir que la concentration, le fait d'être avec les autres vraiment était une chose pourtant toute simple, mais assez difficile, que je retrouve moins, par exemple, avec les lycéens, parce qu'ils sont plus jeunes et qu'ils sont déjà moins, finalement, atteints, d'une certaine façon. Et puis, au fur et à mesure, j'ai senti qu'en fait, les choses s'ouvraient. Donc, ça m'a redonné espoir sur le fait que, vraiment, voilà, le théâtre a toujours son pouvoir d'émancipation, de libération, et aussi que finalement, j'ai pu les rencontrer vraiment et rentrer dans l'expérience du sensible. Et je sentais qu'en fait, ils attendaient aussi ça. Et donc, ça m'a beaucoup rassurée aussi. Ça m'a donné de la force. Et oui, je me suis questionnée sur toujours, en fait, comment à la fois être dans un endroit quand même un peu d'autorité, parce qu'il faut amener un cadre, etc. Et en même temps, évidemment, travailler sur une immense liberté, parce que c'est ça aussi que permet le théâtre.
Une génération, tu parlais d'écran, qui a été aussi marquée par le Covid. Pour revenir sur ta carrière, comment ça s'est passé cette période de Covid et comment aujourd'hui se passe ta carrière?
Bah, disons que moi, je crois que j'ai eu la chance. J'avais 32 ans, 33 ans quand il y a eu le Covid. Et donc, j'avais déjà, en fait, finalement, commencé assez fortement ma vie d'adulte. Donc ça m'a pas atteinte de la même façon que la génération qui arrive. Ça a été un temps d'arrêt, comme pour beaucoup de gens, évidemment. Ça a été un temps d'intériorisation très profonde sur le prochain spectacle que je voulais monter, donc Ombre, Eurydice parle, une réécriture du mythe d'Orphée du point de vue d'Eurydice. Et c'est vrai que j'ai mesuré en fait la violence que c'était pour la jeunesse de vivre dans leurs premières années d'éclosion ce temps d'arrêt. Et aujourd'hui, moi, ma carrière, elle se passe plutôt vraiment bien. J'ai la chance de faire ce que j'aime, de travailler avec une équipe, des équipes que j'adore, de faire plein de choses différentes, que mes spectacles soient vus et de tourner. Donc je sais que j'ai beaucoup de chance pour ça. Voilà, et je pense que par rapport à l'enseignement, on enseigne bien que ce qu'on cherche. Donc moi, quand je suis avec des étudiants, finalement, je suis dans une recherche aussi pour mon propre travail. Alors là, le problème, c'est qu'on a manqué de temps, je trouve, et d'espace pour vraiment encore mieux se rencontrer. Donc je dirais sur la suite, d'avoir plus de temps et d'avoir plus de... Peut-être de pouvoir avoir la chance de jouer 2-3 fois pour que les étudiants aussi puissent découvrir ce que c'est que de vraiment éprouver le spectacle sur plusieurs dates.
Eh ben merci beaucoup. Et avant de finir, peut-être juste rappeler le prochain spectacle que tu vas mettre en place sur Orléans.
Oui, c'est le 16 et 17 mai au CDN d'Orléans. Donc « Ombre rit disparle », c'est un texte de Jelinek, prix Nobel de littérature en 2004, qui est une réécriture du mythe d'Orphée du point de vue d'Eurydice.
Eh ben merci beaucoup Marie.
Merci Rodrigue.
Voilà, vous venez d'écouter une interview qu'on a pu faire lors des ateliers théâtre auxquels Marie Fortuy a participé dans le cadre des UEO libres que les étudiants d'Orléans avaient. Vous pouvez donc retrouver la deuxième représentation de son spectacle ce soir à partir de 19h30. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Nous, on continue l'émission avec les quelques minutes qui nous restent en enchaînant avec le son. Oula, il est un peu long. En enchaînant avec le son J'accepte de Laclo.
Femme n'est pas mon chemin, je deviens celui que je veux être au contact de l'amour, de l'amour, de l'amour.
Et malheureusement, comme l'indique le titre du morceau, j'accepte que ce soit déjà la fin de cette émission, pas vrai Lucas ?
Bien triste, cette émission était riche en émotions, mais c'est fini pour aujourd'hui.
Et qu'est-ce qu'on va donc retrouver à partir de 13h ?
À partir de 13h, dis-nous ce qu'on a, Rodrigue.
Ah oui, pardon. On a Rocologie qui va enchaîner, du coup, après cette émission.
Et ensuite, de 15h à 16h, vous allez retrouver le Moulin à Parole pour parler d'actualité et ça sera des débats.
Voilà, il est midi 59 sur Radio Campus Orléans. C'est déjà la fin de Écoute ta fac. On vous laisse ces quelques derniers centièmes de seconde avec J'accepte.
J'accepte que femme n'est pas mon chemin, je deviens celui que je veux être au contact de l'amour.